Je vous invite à ouvrir ce matin vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 7. Nous lirons là une des lettres que Jean écrit de la part de notre Seigneur Jésus à une des sept églises d'Asie. Il y en avait d'autres, et celle-ci est l'église de Philadelphie. Apocalypse 3:7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Et voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà, je ne vais pas commencer par une nouvelle très réjouissante, mais vous en conviendrez avec moi, nous sommes cernés par la tentation. Tant que nous demeurons dans ce monde, nous sommes cernés par la tentation. Nous évitons de regarder à droite et voilà qu'à gauche, ça nous revient comme un boomerang. Et les choses ne changeront pas parce que la tentation reste l'arme favorite de Satan pour tenir les hommes captifs de son emprise. Heureusement, Jésus a prié. Et dans le jardin, il a demandé à son Père de nous garder, de nous préserver de la tentation de l'esprit du mal. Et il nous demande aussi, à travers la prière du Notre Père, à nous-mêmes prier Dieu de ne point nous induire en tentation et de nous délivrer du malin. Jésus a prié pour que nous soyons préservés, mais il attend aussi de nous que nous prenions conscience de toutes ces choses qui sont autour de nous et que nous demandions au Seigneur de nous garder dans la foi et dans la sainteté. Alors je vais rappeler quelque chose que vous connaissez pour la plupart, c'est l'apôtre Jacques qui nous le dit, ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais la tentation vient de nous. Elle trouve un écho en nous parce qu'il nous dit « chacun est tenté » quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la puissance de la convoitise, ça a vraiment été un axe de mes messages tout au long de cette année, c'est l'iniquité, la puissance de l'injustice qui est dans le cœur de tout homme. Et cette puissance de l'iniquité est comme une amorce que le diable utilisera tant qu'il la trouvera en nous pour nous faire chuter. L'iniquité est trop puissante pour que l'homme puisse y résister tout seul. Non seulement nous avons besoin du Seigneur, de puiser nos forces en lui, mais ce qui est merveilleux, c'est que l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur est capable de nous délivrer, d'arracher cette amorce pour que Satan nous laisse tranquille. C'est notre prière. C'est la plus grande des prières, la plus grande des demandes. Seigneur, libère-moi de la puissance de la convoitise afin que je puisse mener une vie tranquille. Gloire à Dieu, le Seigneur est capable de cela. Je veux le dire ce matin, le Seigneur est capable de faire cela dans ta vie. Mais maintenant, quand Jean écrit quelque chose comme l'heure de la tentation, avez-vous lu cela avec moi ? Apocalypse, chapitre 3, verset 10. L'heure de la tentation. Quand Jean écrit cette chose, nous devons y prendre garde. La formule est solennelle. Et il cherche à éveiller notre attention. Quand il nous parle d'une heure de la tentation, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous avons connu concernant la tentation dans notre monde. Il faut comprendre, c'est autre chose. C'est d'une autre dimension, d'une autre espèce, d'une autre puissance. L'heure de la tentation, c'est un temps unique qui vient sur notre monde et dont la finalité est d'éprouver, autrement dit, de révéler ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et c'est un temps qui est proche, et c'est un temps qui nous concerne aussi. Et nous devons donc être conscients de ce que la Bible nous dit, de ce que le Seigneur nous enseigne afin que nous soyons avertis. Alors ce matin, je m'arrêterai sur quelques-unes des caractéristiques de cette heure de la tentation, de cette épreuve, son intensité, son envergure, sa puissance, sa nature, son but. Mais je voudrais aussi insister sur les paroles que le Seigneur donne à son Église. Des paroles de préservation, des paroles d'encouragement, des paroles de victoire. Alléluia. Parlons donc de l'heure de la tentation. Nous la trouvons là au milieu de cette lettre adressée à l'église de Philadelphie. Et je vais dire ceci puisque le Seigneur a soin de dire cela à son église. Ça veut dire que nous sommes concernés. Parce que certains pourraient dire, mais ça, ce sont des temps qui vont concerner le monde, mais pas l'église parce qu'elle aura été enlevée. Je ne crois pas. Parce que si le Seigneur en parle justement dans le cas de l'église de Philadelphie, dans le cas des choses qui sont, c'est pour nous dire, attention, Église de Jésus-Christ, vient un moment très particulier et vous devez être prêt par rapport à ces choses. Alors évidemment, quand on lit une heure de tentation, on pourrait d'abord se dire, ma foi, une heure, qu'est-ce qu'une heure dans la vie d'un homme? 60 minutes? 3600 secondes? Bon, c'est relativement vite passé. Alors ça pourrait nous amener à négliger cette chose, une heure de tentation. On peut bien arriver à surmonter une heure. Bon, nous comprenons que c'est une image. Certes, ce sera court, mais ça reste une image. Mais nous devons aussi comprendre qu'il y a là une tournure. Une tournure pour nous dire que cette heure qui vient sera terrible. Plus c'est court, plus c'est intense. Je me réfère à ce qu'écrit le prophète Ésaïe. Quand il nous parle d'une année de grâce et un jour de vengeance, un jour de colère. Dieu est long, il est grand, il est patient parce qu'il désire que tout homme parvienne à la repentance. Et l'année de grâce du Seigneur, elle s'étend. Dans sa colère, dans son jugement, Dieu abrège les temps. Un jour. Parce qu'il sait que si ça dure trop longtemps, aucun n'y survivrait, pas même parmi ses élus. Quel Dieu miséricordieux nous avons. Nous avons donc devant nous, mes frères et sœurs, une heure terrible qui vient et qui causera de nombreux ravages parmi les hommes à cause de l'intensité qui sera la sienne. C'est le premier point, la première caractéristique. La deuxième, nous la voyons rapidement, c'est son envergure. Elle vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Toute l'humanité est concernée par cette heure de la tentation. Avant, je disais au sujet de Jacques, il disait « chacun est amorcé ». C'est chacun. Mais là, c'est tous. C'est comme tous les hommes vont être atteints pendant cette période de temps très intense par cette puissance qui va se manifester. 7 milliards d'individus sur cette terre, hommes, femmes, de toute nation, de tout âge. Et ma foi, c'est quelque chose qui colle tellement à notre société tellement intégrée. Nous voyons comment aujourd'hui les révolutions ou les révoltes ou les manifestations prennent de l'ampleur à cause des réseaux sociaux. Et ce qui se fait aujourd'hui au niveau d'un pays, ne se fera-t-il pas demain au niveau d'un continent et au niveau même du monde entier? Nous avançons vers ces choses. Ma foi, nous ne sommes pas très surpris de ces évolutions. Nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans un monde où les modes, les annonces, les courants de pensée s'universalisent en un instant et parfois aussi se consument en une heure. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la manière et la vitesse avec laquelle de nouvelles doctrines, de nouvelles pensées, de nouvelles modes arrivent non seulement à infiltrer tous les pays du monde, mais surtout à en bouleverser les fondements culturels, religieux et même juridiques. Ésaïe n'a-t-il pas écrit que vient un temps où les fondements seront bouleversés, seront renversés? Alors je vais prendre cet exemple, parce que nous l'avons tous vécu et nous essayons de prendre du recul. Prenons du recul par rapport aux événements. Prenons du recul, c'est ce que Jésus fait toujours quand on vient lui dire « Seigneur, la tour de Siloé est tombée sur ces gens ». Jésus prend du recul, il n'est pas là pour être comme commentateur, mais il nous faut regarder avec un aspect spirituel ce qui se passe. Et durant ce printemps, notre nation a été traversée par, et bouleversée par cette proposition de loi qui est devenue une loi du mariage pour tous, pour atténuer la chose, mais que nous disons bien sûr le mariage pour les homosexuels. Et ce que nous voyons, c'est que c'est quelque chose, une idée qui se répand de plus en plus. Non pas encore universellement, mais en tout cas dans le monde occidental, la chose, il y a vraiment une pression, c'est un agenda qui est fixé. Et cette idée est tellement puissante qu'elle renverse des centaines et des centaines d'années de culture, de religion, de tradition et même de droit. Notre droit a été bouleversé. Et quand on voit tout cela, on comprend qu'il y a vraiment quelque chose, une déferlante qui passe. Ce n'est que la première vague qui annonce quelque chose de plus puissant. J'y vois comme un travail de sape. Un travail de sape de tout ce qui est la force de nos cultures. Et l'Occident devient un monde sans culture, un monde sans repère, un monde sans fondement. Et au fur et à mesure, les fondations sont renversées. Elles sont sapées. Nous vivons dans un temps où, par la puissance et l'intégration d'immédiat, une idée peut se répandre ainsi à travers les cultures et atteindre tous les hommes. Ce que Jésus disait est en train donc de s'accomplir. Aujourd'hui, ça peut véritablement s'accomplir. En un instant, en une heure, le monde entier peut être touché par quelque chose. Tous les moyens sont là. Après avoir parlé de l'intensité de cette heure de la tentation, de son envergure universelle, je veux en venir à ce qui est certainement le plus important, c'est la nature de cette tentation qui vient. Je voudrais que nous puissions lire un texte, c'est un texte difficile aussi, mais qui est important à lire dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Je voudrais que nous puissions parler donc de la nature de cette tentation, et comprendre, mais quelle est donc cette tentation qui impactera l'humanité tout entière si fortement en si peu de temps? Quelle peut être la nature pour atteindre ainsi tous les hommes? De Thessaloniciens 2, 9, l'apparition de cet impie, c'est la manière de parler de l'apôtre Paul, Jean parlera plutôt de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, l'iniquité, soient condamnés. Cette heure de la tentation va être une heure de débordement d'iniquité. Tous les fondements sont en train d'être sapés les uns après les autres. Et quand il n'y aura plus rien pour retenir, quand les digues auront été renversées, ce sera un débordement. Une inondation, comme celle que les départements des Pyrénées ont connue. Mais ceci à un degré que nous n'avons pas encore vu. Cette heure de la tentation s'appuiera sur les moyens classiques du mensonge, de la séduction, mais elle s'appuiera aussi sur une puissance toute particulière. Car dans les temps qui viennent, Dieu va permettre à Satan d'agir comme il n'a jamais encore agi. Il va permettre à Satan de manifester une puissance que nous ne connaissons pas encore. Car Satan agit toujours dans le cadre que Dieu lui met. Il ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu lui met. Mais Dieu va, je veux dire, il va de sa part élargir les limites. Dire « Satan, je te livre ce monde. » Puisque ce monde a laissé, les fondements sont renversés, je te livre ce monde. Et il va agir à travers toutes sortes de manifestations mensongères. Il dit de prodiges. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que pour que nous soyons étonnés, nous, société du 21e siècle, par des choses, il faut vraiment aller chercher loin. Quelles sont donc les choses qui vont étonner l'humanité entière, celle qui n'a pas l'amour de la vérité pour suivre Satan? Qu'est-ce qui va pouvoir subjuguer tous les hommes? Vous voulez un indice? Observez les thèmes de tous les films qui sortent, de beaucoup qui sortent. Et vous allez commencer à comprendre. Ça peut être fou, mais c'est fou, parce que ce qui va arriver est fou. Mais si vous regardez les films, c'est généralement des films que les plus jeunes regardent. Je le dis parce que des fois, les personnes âgées n'ont pas l'habitude de regarder ce genre de films. Mais c'est eux qui nous disent ce que Satan risque de manifester comme œuvre pour subjuguer les hommes. Donc toutes sortes de miracles mensongers, de prouesses, et puis surtout donc, le droit de faire ce qu'on veut. Particulièrement, je vais être direct, dans le domaine sexuel. Parce que c'est ce que les hommes recherchent. C'est bien ce qui est dit, mais ils ont plaisir à l'injustice, à l'iniquité. Vient un moment, dans notre société occidentale particulièrement, où on va voir des choses. On va nous justifier des comportements sexuels en disant « mais c'est normal, parce que tout aura été renversé. » Les fondements traditionnels, culturels, religieux et juridiques. Et les hommes diront « ça nous plaît ». Et beaucoup iront dans ce sens. C'est une heure pour tenter, pour éprouver le cœur de l'homme. Alors justement, ça nous amène au but. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Les magistrats ont été établis par Dieu pour être des serviteurs de Dieu. Mais quand la loi devient contre les principes établis par Dieu, alors la justice devient elle-même une source d'appui de l'iniquité. Il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de droit. Tout ceci est perçu d'ailleurs, comme ils le disent, comme réactionnaire. Il y a des pays qui résistent. Ils ont d'autres cultures religieuses. Ils sont très critiqués pour cela. Ça ne fait pas d'eux, forcément, de meilleurs chrétiens. D'ailleurs, certains ne le sont pas du tout. Mais au moins, ils restent attachés à certaines valeurs. Mais ceci touche particulièrement nos pays occidentaux qui n'ont plus aucun point de repère. On n'en veut plus. On a tout renversé. Pourquoi est-ce que Dieu va permettre cette heure-là? Il va permettre ce débordement d'iniquité. Et il va livrer les hommes, Romains chapitre 1er, il va livrer les hommes à l'injustice, à l'iniquité. Et ceci va servir de catalyseur pour révéler ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. La loi, les traditions, les religions, les cultures, toutes les valeurs morales servaient à garder quelque part le cœur de l'homme, à le préserver. Préserver nos comportements familiaux, nos comportements en société. Mais quand tout cela est sapé, quand tout cela est renversé, Dieu le permet pour que ce qu'il y a dans le cœur de l'homme soit réellement manifesté. Dans quel but ? Celui de juger. Celui de juger les hommes. Et c'est bien ce qui vient ensuite dans le livre de l'Apocalypse. Dieu jugera les hommes d'après ce qu'ils sont véritablement. Et l'heure de la tentation, qui vient pour éprouver les hommes, manifestera la réalité des choses qu'il y a dans leur cœur. Rappelons-nous ceci, l'apôtre Pierre écrit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et donc Dieu va aussi éprouver notre foi. Cela afin de voir ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs. Mais dans le but aussi de rendre son Église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Alors maintenant, je l'ai dit, l'heure de la tentation concerne l'Église. Dieu merci, ça ne dure qu'une heure, parce que sinon, nous-mêmes, nous n'arrivions pas à tenir. Mais comment allons-nous faire face à ces choses? Dieu envoie une puissance d'égarement pour que ceux qui se détournent de lui se détournent vraiment. Mais Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux à nous, qui avons écouté sa parole. Il nous a donné l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est l'amour de la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur ne cesse de dire dans cette lettre à l'église de Philadelphie, où il est dit « Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, dans la situation que tu connais, dans les épreuves que tu connais, dans les tentations que tu connais, peut-être même parfois dans les échecs que tu connais, malgré tout, tu as gardé la parole du Seigneur, tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Alors au verset 10, voici ce que dit le Seigneur, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Quand bien même certains se détournaient, quand bien même profitaient davantage, que tu ne voulais pas profiter parce que tu sais qu'ils étaient mensongers, parce qu'ils t'obligeaient à aller contre la volonté du Seigneur, tu as accepté de perdre. Eh bien Jésus te dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Si tu gardes sa parole aujourd'hui, quand viendront ces temps, lui s'occupera de te garder, parce qu'il sait très bien que livrés à nos propres forces, nous ne pourrons pas résister par nous-mêmes. Alors que lisons-nous là ? Gardez la parole de la persévérance en moi, nous dit Jésus. Et ensuite au verset 11, je viens bientôt, je viens subitement, retiens ce que tu as. Retiens, garde la parole du Seigneur, garde le bon dépôt du Saint-Esprit qui habite en toi, parce que vient un moment où le monde, non seulement va vouloir nous étouffer comme il le fait déjà, vous, Église, vous restez dans vos bâtiments, on ne veut plus vous entendre, mais vient un moment où le monde, animé par l'esprit de Satan, voudra nous prendre la parole. J'exagère, mais dans combien de pays aujourd'hui les chrétiens sont persécutés. Le Vatican a estimé que plus de 100 000 chrétiens sont persécutés, mis en prison, exécutés par an. Savez-vous pourquoi ? Parce que nous n'avons aucun gouvernement qui nous protège. Ça n'empêche pas pour nos frères et sœurs, même lorsqu'ils sont dans l'épreuve, dans la souffrance, et même face à la mort, de conserver leur foi, parce que les tyrans de ce monde peuvent les tuer, mais ils savent que là-haut, le Dieu de la vie est assis sur le trône. Et si les nations de ce monde ne garantissent pas la sécurité à l'Église, lui, le Seigneur, nous préserve et nous fera, nous gardera notre place à ses côtés. Amen. Pardon. Qu'est-ce qui nous permettra d'échapper à ces temps ? L'amour de la vérité. Un petit point de doctrine, parce que je sais que beaucoup vous aimez la parole de Dieu, vous étudiez la Bible, et vous savez que peut-être que ce verset, « Je te garderai à l'heure de la tentation » a fait couler beaucoup d'encre. Parce que dans la lettre grecque, il est écrit en fait « Je te garderai hors de l'épreuve ». Que devons-nous comprendre par ce « hors » H-O-R-S. Certains ont vu là la manifestation d'enlèvement de l'Église. Je crois dans l'enlèvement de l'Église. J'ai déjà prêché, je le crois véritablement. Mais pour ma part, je ne crois pas qu'il soit question de l'enlèvement de l'Église dans ce passage, parce que ici, nous sommes encore dans les temps du ministère de l'Église. L'enlèvement de l'Église vient ensuite. Alors certains disent « je te garderai hors de l'épreuve », ça veut dire un peu comme « je te mettrai à l'écart ». Vous savez, un peu comme au temps d'Israël en Égypte, lorsque les plaies sont venues, la main de Dieu a gardé la maison des Israélites, tandis que la grêle, les sauterelles, enfin tout s'abattait sur l'Égypte, les maisons des Hébreux étaient protégées. Il s'appuie d'ailleurs sur un texte d'Ésaïe 26-20 qui dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme tes portes derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. » Ah, dis le Seigneur, va nous mettre dans un coin. Sauf que ce texte n'a rien à voir avec l'Église, il concerne Israël. Il y a des paroles pour Israël, il y a des paroles pour l'Église. Celle-ci, c'est une parole pour Israël. Lorsqu'Israël sera dans les derniers temps, là, en prise à ce qui s'appelle l'angoisse de Jacob ou la grande tribulation. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver ? Souvent, dans les textes, dans beaucoup d'enseignements, dans beaucoup de livres, lorsqu'il est question de ces derniers temps pour l'Église, il y a deux théories, hein, vous savez, il y a ceux qui disent « le Seigneur va enlever l'Église avant la grande tribulation », et puis ceux, et les autres qui disent « le Seigneur viendra prendre son Église après, donc il faudra tout traverser ». Bon, il y a différentes écoles, mais malgré tout, il y a ce sentiment que ça va être des temps terribles, oui, des temps durs où on va souffrir, oui, c'est vrai, mais des temps où presque, on dit, mais c'est des temps où l'Église va devoir se cacher, on va vivre comme des ermites. Je crois que c'est une fausse conception. Mais je vous propose plutôt cette réflexion-là. Le Seigneur va permettre à Satan de manifester une puissance que nous n'avons pas connue jusqu'à présent. Il va l'autoriser à manifester des signes mensongers pour attirer les hommes à lui. Et moi, je crois qu'en contrepartie, le Seigneur va revêtir son Église d'une puissance extraordinaire. Et je veux regarder les temps qui viennent, non pas comme des temps où nous allons nous cacher, mais comme des temps où, rappelez-vous ce que je disais au mois de mai concernant les messages de Pentecôte, où notre nature va se révéler. Où nous allons briller. On veut nous étouffer, nous allons briller. Et nous allons véritablement connaître ce que Jésus a mis en nous. Et nous allons aussi connaître la puissance que Dieu nous a donnée par son Esprit. Et je crois que dans les temps qui viennent, alors que le monde va de plus en plus souffrir des attaques de Satan, l'Église va se lever, l'Église véritable de Jésus-Christ, le peuple de vainqueurs, va se lever pour accomplir les œuvres de Dieu avec une puissance extraordinaire. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit. Et je ne veux pas voir ces temps qui viennent comme des temps de défaite, comme des temps de peur, comme des temps d'atermoiement. Je veux les regarder comme des temps d'opportunité pour prêcher l'Évangile d'une manière extraordinaire. Oui, ce sont des temps où nous allons être éprouvés. Des temps où nous allons devoir nous accrocher. Mais Jésus nous dit que si aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, je garde sa parole, quand viendront ces temps, lui me gardera. Ce sera des temps où nous brillerons comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et quand bien même, beaucoup souffriront jusqu'à donner leur vie, la gloire de Jésus sera avec eux. L'esprit de gloire, dit l'apôtre Pierre, sera sur nous. Ce sera des temps de révélation des fils de Dieu dans ce monde. Parce que plus ce monde va s'enfoncer dans l'iniquité, plus nous entendrons le cri des gens malheureux qui disent « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» et qui vont soupirer après la parole de l'Évangile. Et ils se tourneront vers les chrétiens pour dire « Nous avons besoin de ce que vous avez. Nous voulons ce que vous avez. » Et je crois que ce sont des temps où Dieu est encore capable de visiter ce monde. Mais c'est certain que cette église qui va tenir, c'est une église de vainqueurs. Et ce n'est pas des slogans. La semaine prochaine, je parlerai de ces victoires des lettres, aux lettres de, dans les lettres de, des églises d'Asie, pardon. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Mais pour vaincre, il faut être un athlète, il faut être un guerrier. Et vient un moment où notre foi va être éprouvée. Nous ne pourrons pas nous contenter de dire « Le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a béni ». Mais il faut nous attacher à la parole. Il faut nous fortifier dans la foi. Il faut vraiment puiser nos forces dans le Saint-Esprit. Parce que ces temps sont là devant nous. Le monde s'enfoncera dans l'iniquité, dans le mensonge. Mais l'Église se révélera. Nous ne baisserons pas la tête. Jésus nous dit « Levez les yeux ». Car je viens bientôt. Et nous brillerons. Et nous montrerons au monde ce qu'est la puissance du Saint-Esprit à la manière d'Étienne. Le Seigneur ne voudrait-il pas faire de son église une église de vainqueurs? Étienne, Stéphanos, vainqueur. Il y a quelque chose de prophétique dans le ministère de cet homme. Et quand bien même il est mort sous les pierres, devant lui, au-dessus de lui, le ciel s'était ouvert et il voyait Jésus. N'est-ce pas la plus belle des choses? Voilà une heure de la tentation qui arrive. Elle n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Et nous en ressentons déjà le souffle fétide dans nos coups, parce qu'elle est en train de saper les bases de nos sociétés, occidentales particulièrement. Et lorsqu'elle viendra, elle s'abattra comme un ouragan et il n'y aura plus rien pour la retenir. Et ce sera une dévastation. Mais l'Église sera là. Et quand bien l'ennemi viendrait à nous comme un fleuve débordant, le Seigneur nous délivrera. Et il nous permettra de tenir bon parce que son esprit sera avec nous. Oui, l'heure de la tentation arrive. Mais je ne veux pas avoir de peur. Je ne veux pas avoir de crainte. Et en même temps, je vous le dis aussi, je ne veux pas être surpris. Dimanche dernier après-midi, j'ai utilisé une expression, c'est la première qui me venait, mais elle n'était pas belle, je l'ai changée. Alors j'en ai pris une autre, plus acceptable. Mais ne soyons pas, s'il vous plaît, des grenouilles de bénitier. Oh, ce qui se passe dans le monde. Oh là là! Oh là là, c'est terrible, c'est affreux. Vous avez lu la Bible? Alors, est-ce que vous êtes surpris de ce qui se passe dans le monde? Bah, ne soyons pas surpris, ne jouons pas les gens choqués. Nous ne sommes pas des moralistes. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Nous sommes là pour témoigner de Jésus-Christ. C'est complètement différent. Changer les valeurs de ce monde. Mais tant que vous n'avez pas changé les cœurs, ça ne sert à rien. Dieu est en train de livrer ce monde, nos nations, à l'iniquité. Elles se sont détournées de lui. Elles lui ont donné une lettre de divorce. On ne veut plus de toi. Alors Dieu lui dit, maintenant faites ce que vous voulez. Soyons surpris. Non ! C'est la parole qui s'accomplit. Je ne vais pas être perturbé dans ma foi. Je vais vous dire, il y a des choses encore plus terribles qui vont se produire. Et notre pays va être secoué, pauvre pays. Pauvre pays. Qui n'arrive plus à avancer, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus d'avenir. Au point que tant et tant de nos jeunes, à peine diplômés, ne pensent qu'à une chose, partir. Pauvre nation. Mais nous, Église de Jésus-Christ, nous avons cette mission de témoigner de notre Seigneur encore. Mais attachons-nous à la parole. Parce que dans les temps qui viennent, si nous sommes des tièdes, le Seigneur nous vomira de sa bouche. Et je finis par ceci. Il y a une promesse pour le vainqueur. Qu'est-ce que le vainqueur ici ? Celui qui garde la parole de Jésus. Si vous voulez monter, mes frères, et Stéphane nous conduira ensuite dans un chant. Celui qui garde la parole du Seigneur. Voilà le vainqueur. Celui qui retient jusqu'au bout parce qu'il ne veut pas perdre sa couronne. Voilà le vainqueur. Eh bien, celui-là, dit le Seigneur, celui-là, il habitera dans ma maison. C'est ce que David disait. Seigneur, je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans ta maison. Et Jésus nous dit, je ferai de toi une colonne dans le temple. Et tu sais quoi ? J'écrirai sur toi mon nom nouveau, le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Comment est-ce que je peux finir ce message, dernière phrase ? Ben, je ne peux finir que comme le Seigneur le dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur parle à vos cœurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui vient. Mais soyez forts dans la parole. S'il vous plaît, s'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas en règle avec Dieu, s'il y a encore dans votre cœur la puissance de la convoitise, l'iniquité qui est là, réglez cette chose avec Dieu. Criez à Dieu pour qu'il vous délivre. Parce que les temps qui viennent seront des temps terribles. Mais le Seigneur est celui qui nous délivre. Alléluia.